C'est donc à Saint-Cyr-la-Popie, magnifique village du Lot, qu'Emmanuel Macron a entamé cette semaine son tour de France pour, dit-il, prendre le pouls du pays, comprendre ce qui est accepté en France, ce qui ne l'est pas. Le chef de l'État doit donc effectuer 10 déplacements d'ici mi-juillet. Gérard Carrérou, 40% des Français estiment que c'est une bonne chose, selon un sondage Odoxa, mais 56% y voient une campagne déguisée en vue de sa réélection. C'est votre avis ?
Non. Non, je vais vous dire, ce n'est pas mon avis. Moi, je suis d'abord...
Ah, vous surprenez Michel Cotta,
bah oui. Attendez, on peut avoir un esprit libre et indépendant à une époque où ce n'est pas toujours de mise.
Allez-y, Gérard.
Alors, d'abord, ce que je veux dire, c'est que j'aime les Tours de France. J'aime le Tour de France. C'est magnifique. Même quand je suis... Souvent, je suis aux États-Unis à l'époque du Tour de France. Je le regarde sur les chaînes américaines. C'est tellement beau. Et deuxièmement, comment voulez-vous que je n'aime pas ce Tour de France qui commence dans une petite ville magnifique du Lot, alors que mon grand-père est du Lot. Mon grand-père qui a fait la guerre de 14, qui a eu sa croix de guerre en 14, c'est un homme du Lot.
De l'Aveyron.
Donc, et il a épousé une fille de l'Aveyron, c'est le département à côté.
On s'éloigne un petit peu quand même de cette campagne déguisée d'Emmanuel Macron.
Vous saurez tout, je reviens. Alors je reviens. On lui reproche de faire campagne, et même une double campagne, c'est-à-dire de faire campagne pour les régionales et en même temps un peu pour la présidentielle d'après. Bon, tous les présidents, c'est un peu dans la nature de la Ve République, tous les présidents l'ont fait. Je ne serai pas sur ce sujet un grincheux. Mais ce que je constate, c'est très bien qu'ils veuillent retrouver le fil avec les Français. Ce que je constate, et ça c'est terrible pour le président de la République, c'est qu'il est tout seul. Il est obligé, c'est un président dont la solitude m'effraie, parce qu'il est obligé de faire tout le boulot. Normalement, les campagnes comme ça, locales ou régionales, c'est, il y a des ténors qui viennent pour... Eh bien là, c'est le président qui va faire le boulot tout seul. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de parti, ou il a un parti qui n'arrive pas à s'installer, et c'est quelque part dramatique. Voilà ce que
Catherine
je voulais dire.
Catherine Ney.
Oui, en plus, les 5 ministres, il les a mis dans le... faire dans campagne le nord, dans le Nord, donc ils ne sont pas
France,
ailleurs.
Bon.
Non, mais il fait campagne, mais
notamment.
Il doit accélérer sa campagne en France, parce qu'il ne la connaît pas. La grande différence entre ses prédécesseurs, que ce soit François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, c'est qu'avant d'être président, ils ont déjà fait des tours de France. Ils connaissaient les élus locaux, ils connaissaient les chefs-lieux de canton, les sous-chefs-lieux de canton, ils connaissent tout. On leur parlait d'un village, ah oui, j'y suis allé, j'y suis pas allé. Ils connaissent Mitterrand, avant d'être président, comme premier secrétaire, mais il a vraiment couché chez les militants, mené une vie de chien. Et il aimait la France, il en connaissait le goût, les odeurs. Pareil pour Chirac qui adorait ça. Et Nicolas Sarkozy, mais il faisait 2 déplacements par semaine en province. Donc il aimait ça. Donc qu'il le fasse aujourd'hui,
donc,
moi je trouve que c'est normal.
Ça ne suffit pas de le dire dans Zadig, son amour
non,
de la France.
Non, mais parce qu'il ne la connaît pas. Il cite 5 départements, il ne la connaît pas. Donc il fait connaissance avec la France. Donc moi ça ne me choque pas. Mais moi, où je me dis que pour le président, ce qui va être compliqué, et il est seul, c'est qu'à partir de janvier... Il va devoir faire. Il est président de l'Europe. Donc, quand
la
on voit
de l'Union européenne,
quand on voit
prochain,
la vie qu'avait menée Nicolas Sarkozy, qui lui avait présidé l'Union européenne, le deuxième semestre 2008, il était déjà président. Il n'était jamais en France. Alors, soit il est un président de l'Union européenne qui mérite ce nom, hein, et il n'est jamais là, soit il n'est que candidat. Il ne peut pas être en France.
Alors
c'est ça le problème.
Le Tour de France, le Tour d'Europe. Tour de France, en tout cas, il est critiqué, à droite notamment, Xavier Bertrand,
oui,
qui dit comment le pays est-il dirigé pendant ce temps-là.
Oui, ça me fait rire. Est-ce qu'on Michel peut dire Cotta. Comment les Hauts-de-France sont dirigés pendant ce temps-là Non, c'est un Tour de France d'un président. Et Xavier Bertrand le sait mieux que personne, parce qu'il a vu Jacques Chirac 7 Tours de France, au moins dans sa vie. Donc, c'est de la polémique.
Gabriel Attal lui répond d'ailleurs
que le président
va pas rester dans son bureau.
Ce qui est intéressant, moi aussi je suis comme Gérard, je pense qu'il a tout à fait raison de faire ce Tour de France, que c'est le moment, qu'il ne pourra peut-être pas le faire plus tard, comme dit Catherine, mais surtout c'est ce qu'il y dit. Alors, et au fond, moi, ce que j'ai retenu de ces paroles, c'est le moment n'est pas venu de dire si je me présente ou pas. Alors, tout le monde rigole en se disant Oui, tous les présidents disent ça, puis après ils se présentent. Mais il dit quand même, j'aurai peut-être des décisions à prendre qui m'empêcheront de le faire. On va revenir sur les retraites.
Sur la réforme de retraite après la pause, oui.
Ce qu'il dit aussi, c'est que la France est dans une période de reconstruction. Et il joue beaucoup, je trouve, sur quand les gens lui disent « Oui, mais on a trop de taxes ». Il dit « Oui, mais on vous a beaucoup aidé pendant cette pandémie ». C'est-à-dire qu'il essaye d'utiliser... son regain de popularité. Il est quand même à 38% maintenant dans les sondages. Oui. Finalement, la sortie de la pandémie, si elle se passe bien, joue pour lui. Il faut tourner la page, commencer autre chose. Et il annonce quand même qu'il fera des réformes.
Avant de parler des réformes, Michel Cotta, Charles Villeneuve, le fait qu'il parte comme ça, faire un tour de France, Saint-Cyr-la-Popie dans le Lot, puis Marseille, puis Amiens sur les terres des Hauts-de-France, est-ce que c'est un problème, sachant qu'il n'y a pas de droit de réserve pour le président de la République en campagne, alors qu'il y a une campagne régionale?
Non, c'est l'usage. Oui. De toute façon, tous ses prédécesseurs l'ont fait. Oui. De Gaulle, d'ailleurs, il marche sur les traces du général de Gaulle, parce qu'il a souvent commencé par le Lot, de Gaulle. Mm-hmm. Bon. Enfin, peu importe. Moi, je pense qu'il est dans l'obligation de faire ce Tour de France parce qu'il a transformé ses régionales en une épreuve de vérité. Ne serait-ce que par ses manœuvres, aussi bien celles des Hauts-de-France, on reviendra là-dessus, qu'en Provence-Côte d'Azur. Et donc, partant de là, pour s'éviter, si vous voulez, un 27 juin dans la soirée difficile, comme ça a été pour les municipales, pour lui et son parti, il a intérêt, de toute façon, à faire ce Tour de France. Bien évidemment, il fait une campagne électorale, mais elle est normale. Tous ses prédécesseurs l'ont fait, tous, indéniablement. Et donc, pour lui, évidemment, on sait que c'est plutôt un offensif. Hein, c'est comme un minotaure, il lui faut toujours une réforme, de toute façon, pour le nourrir.
Alors justement,
et là, on y reviendra aussi.
On va y revenir, on marque une courte pause et on parle justement de cette réforme des retraites. Il a dit que rien n'était exclu, mais que la réforme des retraites en l'état ne verrait pas le jour. On en parle tout de suite après cette petite pause. A tout de suite.
Europe 1, Sébastien Guyot.
En charmante compagnie avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou pour ce débat des grandes voix consacré pour cette première partie au Tour de France d'Emmanuel Macron entamé cette semaine dans le Lot et au cours duquel il a évoqué un sujet explosif, la réforme des retraites.
Je ne pense pas que la réforme qui était initialement envisagée puisse être reprise en l'état, je vais être franc avec vous. Parce que je pense qu'elle était très ambitieuse, extrêmement complexe et du coup elle était porteuse aussi d'inquiétude, il faut bien le reconnaître, être lucide sur les... la manière dont le pays l'a vécu. Je pense que le faire maintenant, ce serait ne pas prendre en compte le fait qu'il y a déjà beaucoup de peur et de sujets à reprendre. Donc c'est trop tôt pour vous répondre. En tout cas, ça ne sera pas la même et rien n'est exclu.
Rien n'est exclu, dit le chef de l'État, Charles Villeneuve. C'est un enterrement déguisé, oui ou non?
Écoutez, je sais qu'il s'est entretenu avec le Premier ministre qui a passé cette nuit, la nuit dernière, à bord du Charles de Gaulle, le porte-avions. Et qu'il a incité à catapulter une réforme des retraites différente de la précédente auquel il avait renoncé, rappelons-nous. Moi, je pensais, sincèrement, je suis surpris. Je pensais qu'il allait plutôt jouer le président protecteur plutôt que le président réformateur. Et maintenant, il veut être à l'offensive pour terminer son mandat sur une réforme cruciale pour les générations à venir et pour les finances du pays. Mais il n'empêche que la précédente, rappelez-vous, c'était déroulé dans le cadre d'une paralysie du pays assez importante avec des syndicats qui n'en voulaient pas.
L'ADN réformiste d'Emmanuel Macron va l'emporter sur la peur de remettre le peuple dans la rue contre la réforme des retraites, Michel Cotta?
Oui, moi je crois qu'il surveille son personnage, comme beaucoup de présidents de la République. Il surveille son personnage. Son personnage est un personnage de réformateur. Et laisser tomber en bout de course, c'est effectivement une tentation. Hein. Ce serait une tentation de dire... Et d'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, par exemple, dit qu'on ferait bien de remettre tout ça au quinquennat suivant. Mais moi, je pense qu'il tiendra là-dessus, qu'il tiendra sur une réforme effectivement différente, et que cette fois... Enfin, on dit toujours ça, hein, d'ailleurs, avant cette réforme de retraite, il a une partie de la population contre lui, pour lui, en disant « oui, c'est vrai, il faut travailler plus, la population vieillit, etc. »
Et plus longtemps.
Malheureusement, effectivement, les syndicats qui ont déjà commencé.
Ont déjà fait savoir qu'ils manifesteraient.
Mais enfin, ce qui est important là-dedans, c'est quand même le fait qu'il ne renonce pas à ce pourquoi il a été élu. Et au fond, ce sera presque la seule... grande réforme, puisque le chômage, ça n'a pas eu lieu, il y a des lois, etc. Mais c'est vrai qu'il attachera son nom à cette réforme-là en la changeant s'il y arrive.
Sachant que nos confrères du Parisien, ce matin, avancent l'idée d'un abandon du système à points, rejeté par les syndicats, mais d'un allongement du départ à la retraite à 64 ans, Gérard Carillon.
Oui, alors sur le principe, je suis assez d'accord avec Michel, je pense que pour un président qui est à 10 mois de la grande échéance de l'élection, renoncer et dire c'est fini, il n'y aura pas de réforme de la retraite, c'est quelque part s'infliger à soi-même un désaveu. Donc
mais
il va le faire.
Il ne sera pas voté avant la présidentielle.
Non, je sais bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de nous présenter quelque chose qui sera humanisé et qui sera en fait voté, qui sera destiné à être voté lors d'un deuxième mandat pour lui, s'il est réélu, ou par un autre éventuellement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait à choper? Souvenons-nous quand même que ce qu'il y avait à choper, c'était effectivement la résistance dans la rue populaire, et puis aussi, effectivement, une forme de détermination du Premier ministre Édouard Philippe à ne pas céder sur ce qu'on appelait le paramétrique, c'est-à-dire, en fait, travailler un peu plus ou pas.
Et combien ça coûtait.
Donc, le paramétrique, c'est-à-dire le coût et effectivement le travail plus, c'est ça qui avait fait capoter le premier projet. Là, je pense qu'il va renoncer en partie à la réforme globale et il va nous faire quand même du paramétrique, mais c'est-à-dire financer, travailler quelques trimestres de plus pour pouvoir financer. Et en même temps, il va ajouter quelque chose qui permet de ressembler à ce qu'il avait dit au début. C'est-à-dire qu'il va humaniser une réforme qui n'était pas passée.
Et puis il va la simplifier, surtout.
D'abord, il faut trouver le bon ministre qui vende bien cette réforme très compliquée.
Hein, bon. Mais c'est le premier ministre.
Oui, mais là, pour l'instant, il a quelque chose.
Oui,
c'est drôle de l'appeler sur un bateau pour lui dire comme s'il ne s'était pas mis d'accord avant. Mais bon, moi, je trouve que il a quelque chose de positif à annoncer, c'est le plan de relance, où il va y avoir européen, où il va y avoir beaucoup d'argent qui va permettre de faire quelque chose. Alors peut-être que lier quelque chose de positif comme ça pour les Français, mais à venir, hein, c'est pas pour tout de suite, et une réforme à venir, mais qu'il ne peut annoncer, qu'il ne peut être voté qu'après, s'il est réélu. Donc ça mange pas de pain. Ou il est battu et elle se fait pas, ou il est réélu, elle se fera peut-être. Hein. Bon, donc il va continuer. Mais beaucoup de ses amis lui disent « Attention, le pays, il est convalescent. Il est en train de se dire qu'il reprendra le travail. La moitié disent « On continuera. » Voilà. Ils ont un rapport au travail qui n'est pas celui de se dire « On va travailler à 64 ans. » Et leur dire, alors qu'ils sont encore fatigués par le Covid et tout ça, « Vous allez travailler 64 ans. » Je ne sais pas. Si franchement, on dit qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, on n'attrape pas beaucoup d'électeurs.
Moi, j'abonde justement par rapport à ce que vient de dire Catherine, parce que le pays a quand même traversé deux grandes crises, celle des gilets jaunes et la crise sanitaire. Et c'est vrai que c'est très courageux de relancer, mais manifestement, l'immobilisme, pour lui, n'est pas une action. Et donc, il veut finir sur une action. Et ça rejoint le raisonnement de Gérard. Indéniablement, de toute façon, c'est une action qui ne sera pas terminée, qui ne sera pas finie, qui ne sera pas ronde, parce qu'elle ne peut l'être qu'avec un vote, évidemment, des deux assemblées.
Et il est prêt à ça, Michel Cotta, parce qu'il a 40% d'opinion favorable. Il se dit que c'est un socle suffisant
Je ne pense pas seulement. Il a 40%, c'est un socle, mais il a surtout l'adhésion de 56% des Français sur... le fait qu'on doive travailler plus longtemps parce que... Et alors, ce qui m'a étonné, d'ailleurs, c'est que dans cette tournée de Saint-Cirque la Popie, pour une des premières fois, il a redit en public « En France, on ne travaille pas assez ». C'est-à-dire qu'il a repris, au fond, les thèmes du début. Et moi, je suis absolument sûr que c'est quelqu'un qui veut finir, au fond, comme il a commencé, en essayant de tourner la page du Covid, si elle se tourne, hein, parce qu'on n'est jamais sûr. Mais la France convalescente, au contraire, vous avez raison de dire que la France est convalescente, mais d'une certaine façon, elle est peut-être prête à faire autre chose, à oublier, à tourner la page et à se dire, bon, effectivement, il y a des problèmes de sérieux.
Il y a un facteur positif, d'ailleurs, je pense, Michel, et tu seras sans doute d'accord avec moi, c'est qu'on ne peut pas imaginer, je crois, en tout cas, moi, je n'imagine pas, que les syndicats, à commencer par la CGT, qui avait quand même mené un peu la danse lors de la première version de la retraite, seront en situation de lancer un grand mouvement social à 10 mois d'une élection présidentielle. Donc, et comme l'opinion, entre-temps, a réfléchi un petit peu, elle sait bien, les gens savent bien qu'on vit un peu plus longtemps et que de toute façon, et que ça a été fait deux ou trois fois déjà, qu'il faudra donner quelques trimestres de plus à travailler, je pense que le risque social d'une explosion est bien moindre, qu'il ne le fut lors de la première réforme.
Tu as raison de le dire, parce que la CGT qui a lancé une manif il n'y a pas longtemps à Paris, ça s'est très mal passé pour elle, parce que les Black Blocs sont arrivés, ont tout cassé et ont même cassé la figure des CGT. Parce que maintenant, la CGT, si elle veut lancer une grande manif, eh bien, elle n'a plus comme avant les gros bras de la CGT qui empêchaient les débordements. Et maintenant, elle est fragilisée par cette perte de militants qu'elle n'a plus. Et lancer un grand mouvement social, elle sait qu'il peut déborder dans la violence et qu'elle en sera tenue pour responsable.
Alors, vive les Black Blocs, quoi. De toute façon, la CGT a perdu des élections.
Oui, mais enfin, la CFDT, qui avait été leader pendant la première campagne sur les retraites, disait, moi je me souviens d'une interview de Laurent Berger dans Match, qui disait « Un intrus s'est glissé dans le débat, c'est l'équilibre budgétaire. » Et bien, quand on peut dire une bêtise pareille, je veux dire merci pour le syndicat réformiste.
Alors, y aura-t-il un mouvement social ? Y aura-t-il une réforme des retraites ? Y aura-t-il une conférence sociale d'ici juillet ? Nous allons suivre cela. Avant la présidentielle aussi, il y a les régionales dans 15 jours. Le RN peut-il remporter une ou plusieurs régions ? La stratégie du Front républicain est-elle morte ? On va en parler dans un instant. À tout de suite.